VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 6 juin 2016. En direct de Washington, Idrissa Seloudia et Anne Alberson. Tout d'abord les titres.
Au Nigeria, condamnation du lynchage d'une chrétienne hier par la principale organisation musulmane du pays.
En Libye, les corps de 132 migrants retrouvés depuis jeudi dans l'ouest du pays.
En Irak, un charnier contenant des centaines de corps a été découvert près de Fallujah, un bastion du groupe État islamique.
Début à Pékin du dialogue stratégique et économique annuel États-Unis-Chine.
Et l'Amérique continue de rendre hommage à Mohamed Ali. Ses obsèques auront lieu vendredi dans sa ville natale de Louisville, dans le Kentucky.
Et ne manquez pas la Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal.
Au Nigeria, la principale organisation musulmane a donc condamné hier le lynchage d'une chrétienne dans un marché de Kano, la grande métropole du Nord. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Le président Muhammadu Buhari avait déjà condamné le meurtre jeudi de Bridget Agbaime, une commerçante de 74 ans, épouse d'un pasteur. Elle avait été lynchée par une foule dans un marché local de Kano, la grande ville du Nord, majoritairement musulman. Le président Buhari avait appelé les chrétiens et musulmans à respecter la foi de chacun et à vivre ensemble dans la paix. Hier dimanche, la Jamaatul Nasril Islam a condamné à son tour ce crime en disant que c'est contraire à l'islam, condamnant une action perpétrée, selon elle, par des mécréants et des criminels. C'est à peine croyable qu'un acte aussi ignoble puisse être commis au nom de la religion, a déclaré Alhaji Mohamed Saad Aboubakar, le sultan de Sokoto, la plus haute autorité musulmane du Nigeria. Le dignitaire religieux appelle la population au calme pour éviter une escalade de la violence. À la fin du mois passé, au moins 4 personnes ont été tuées dans des affrontements intercommunautaires dans le centre du pays.
Les corps de 132 migrants ont été retrouvés depuis jeudi près de Zouara, dans l'ouest de la Libye, non loin de la frontière avec la Tunisie. Mohamed Al-Misrati, porte-parole du Croissant Rouge libyen, a indiqué hier que depuis jeudi, les corps de 129 migrants ont été retrouvés sur les plages de Zouara. Khaled Khalif Ben Khalifa, membre du conseil local de cette ville portuaire, ajoute que 3 autres cadavres récupérés le samedi près d'un complexe gazier sur la plage des Melita, à 20 km à l'est de Zouara.
Les passeurs de migrants clandestins profitent du chaos qui règne en Libye depuis la chute de Kadhafi. La plupart des candidats à l'immigration ont pour destination l'Italie, à quelques 300 km des côtes libyennes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un charnier contenant 400 corps a été découvert près de Fallujah par les forces irakiennes impliquées dans les opérations pour la reprise de cette ville au groupe État islamique.
Le charnier a été découvert dans la localité de Saklawiya, à environ 10 km au nord-ouest de Fallujah. Il contenait des corps de militaires et quelques civils. C'était au cours d'une opération de déminage des forces irakiennes et miliciens chiites dans le quartier de Shuhada.
Les États-Unis et la Chine ont lancé ce matin à Pékin leur dialogue stratégique et économique annuel sous l'égide du président chinois Xi Jinping. Il s'agit d'une réunion sous haute tension cette année en raison des contentieux en mer de Chine méridionale. Idriss Fall.
Le secrétaire d'État John Kerry est arrivé hier soir à Pékin en provenance de Mongolie. Avec le secrétaire au Trésor Jack Lew, ils vont participer lundi et mardi au 8e dialogue stratégique et économique entre la Chine et les États-Unis. Ils seront reçus par le vice-premier ministre Wang Yang et Yang Jiechi, conseiller d'État du président chinois et qui a la main sur la politique étrangère. Le Trésor américain a annoncé un dialogue sur les défis et les opportunités pour les deux pays, mais la liste est longue. Corée du Nord, Taïwan, changement climatique, cybersécurité, terrorisme, le niveau du yuan, la monnaie chinoise, les échanges commerciaux et la coopération entre les deux géants de l'économie mondiale. Le sujet épineux sera sur la mer de Chine méridionale, dont Pékin revendique la quasi-totalité et provoque la colère du Vietnam, des Philippines, de Brunei et de la Malaisie. À Ulaanbaatar hier, John Kerry a dénoncé la militarisation de cette zone maritime riche en ressources et cruciale pour le commerce mondial. Pékin a rétorqué que les pays extérieurs devraient jouer un rôle constructif à ce sujet et pas l'inverse.
Ajoutons que les États-Unis et la Chine ont appelé à coopérer comme des partenaires et non des rivaux lors de ce face-à-face annuel stratégique et économique.
Le président chinois a d'entrée donné le ton en jugeant que la vaste région du Pacifique devrait être une scène de coopération et non pas une zone de compétition. Il a réclamé que les États-Unis et la Chine renforcent leur confiance réciproque ainsi que leur coopération en Asie-Pacifique.
Le secrétaire d'État américain John Kerry, lui, a répondu « C'est à nous, l'Amérique et la Chine, à faire en sorte que nous soyons plus des partenaires que des rivaux. »
À propos du casse-tête nord-coréen, John Kerry a jugé impératif de maintenir la pression de la communauté internationale sur Pyongyang pour contrecarrer ses programmes nucléaires et balistiques.
Au Pérou, le candidat de centre-droit Pedro Pablo Kuczynski devance légèrement Keiko Fujimori, la fille de l'ex-chef de l'État Alberto Fujimori, emprisonnée pour crimes contre l'humanité. C'est ce qui ressort d'un décompte des instituts de sondage à l'issue du second tour de la présidentielle dans ce pays.
Hillary Clinton a remporté dimanche la primaire démocrate de l'île de Porto Rico, se rapprochant de la majorité requise de délégués pour l'investiture présidentielle aux États-Unis, selon les chaînes CNN et NBC. Ce territoire américain, Porto Rico, participe aux primaires, mais pas à l'élection présidentielle.
La famille de Mohamed Ali se préparait à rapatrier la dépouille du légendaire boxeur à Louisville, sa ville natale, où seront célébrées ses obsèques vendredi. L'heure du départ d'Arizona, dans le sud-ouest des États-Unis, restait inconnue dimanche en début de soirée, au moment où se tenait, en mémoire du champion, des services écuméniques au centre islamique de Louisville, dans le Kentucky.
Ali y sera inhumé vendredi à Louisville, après une cérémonie réservée à sa famille jeudi, puis une procession funéraire ouverte à tous qui traversera le quartier de sa jeunesse. Une cérémonie multiconfessionnelle, présidée par un imam, comme l'avait demandé Ali lui-même, sera organisée avec l'ancien président Bill Clinton pour prononcer l'éloge funèbre.
En Afghanistan, le journaliste américain David Gilkey et son interprète Zabihullah Tamanna ont été tués dimanche alors qu'ils circulaient avec une unité de l'armée afghane qui a essuyé des tirs dans la province de Helmand, dans le sud du pays. La nouvelle a été annoncée par sa radio National Public Radio, basée ici à Washington.
En Belgique, au moins 3 personnes sont mortes et une quarantaine blessées dans la collision dimanche soir entre un train de voyageurs et un train de marchandises sur la ligne reliant Namur à Liège, en Belgique, selon l'agence de presse belga.
Des passagers d'un Airbus A380 et des membres d'équipage de Malaysia Airlines ont été légèrement blessés par de fortes turbulences rencontrées par l'avion qui assurait la liaison entre Londres et Kuala Lumpur dimanche. Selon la compagnie aérienne malaisienne, l'appareil, avec 378 personnes à bord, a été secoué brièvement par de fortes turbulences au-dessus du golfe du Bengale dans l'océan Indien. Des photos publiées sur les réseaux sociaux montrent des allées de l'avion jonchées de restes de nourriture, de boissons et d'autres affaires provenant des coffres à bagages. Fin de ce journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Football avec les éliminatoires de la CAN 2017. et les dénouements qui se rapprochent.
Oui, la cinquième et avant-dernière journée a connu plusieurs équipes qualifiées pour la phase finale qui aura lieu, on le rappelle, au Gabon. La Guinée-Bissau, dans le groupe E, l'invité surprise, a validé son billet en venant à bout de la Zambie 3-2, profitant du coup de la défaite du Congo face au Kenya 2-1. Ça passe également pour le Zimbabwe dans la poule L, alors que la Guinée abandonne tout espoir de passer. Des qualifications plus attendues, celle du Ghana, vainqueur de l'île Maurice 2-0, du Maroc malgré son match nul 1-1 face à la Libye, de l'Algérie, vainqueur des Seychelles 2-0, de l'Égypte après avoir manqué 3 cannes consécutives, et du Cameroun qui a obtenu son billet à Nouakchott suite à sa victoire de 1-0 devant la Mauritanie.
Le Sénégal ira lui aussi au Gabon.
Cinquième victoire consécutive dans le groupe K pour les Lions de la Teranga. Succès 2-0 sur la pelouse du Burundi. Résumé du match avec Amédine Sy.
C'est la pépite sénégalaise de Southampton, Sadio Mané, qui a montré la voie à suivre à ses partenaires en ouvrant le score à la 15e minute. Il sera suivi par l'attaquant de Stoke City, Mam Birim Diouf, qui a marqué le but du KO à la 42e minute. Les hommes de Aliou Cissé vont gérer le reste de la partie pour s'offrir une qualification à la CAN. Il faut dire que cette 14e qualification du Sénégal a été acquise avec la manière, car le Sénégal qui totalise 15 points a réalisé un parcours sans faute en faisant le plein, 15 points sur 15 possibles, 5 victoires en autant de sorties. D'ailleurs, le dernier match des éliminatoires contre la Namibie prévu au mois de septembre à Dakar ne sera qu'une simple formalité pour les Lions de la Teranga. Amédine Sy, Dakar, VOA Afrique.
La RD Congo se rapproche dans la poule B après son carton à Madagascar.
Effectivement, Idrissa, succès 6-1 des Léopards à Majunga. Les hommes de Florent Ibengué sont bien partis, mais ils devront encore sécuriser leur première place face à la Centrafrique début septembre. On écoute Florent Ibengué, le sélectionneur de la RDC.
C'est sûr que ça nous a facilité la tâche, mais on le voulait. On l'a dit avant de commencer qu'il ne fallait pas attendre forcément la deuxième mi-temps pour prendre l'avantage, il fallait attaquer tout de suite. Et vous avez vu, dès l'entame du match, on a pris le ballon, on l'a mis dans le camp adverse. Donc on le souhaitait vraiment, on voulait mettre la pression tout de suite pour pouvoir étouffer cette équipe le plus vite possible et être tranquille déjà dès la mi-temps.
Florent Ibengué au micro du Top Congo FM, notre partenaire à Kinshasa. Les Centrafricains ont eu raison de l'Angola 3-1 et ont 2 points de retard sur les Congolais. Bonne opération également du Burkina Faso dans la poule D, succès précieux sur la pelouse des Comores 1-0. Du coup, les étalons prennent la première place du groupe devant l'Ouganda et c'est moins bien parti pour le Togo accroché au Libéria 2-2. Une grosse dernière journée en perspective dans ce groupe A, dominé par la Tunisie et le Libéria qui ont chacun 10 points et qui s'affronteront lors de la dernière journée. Et puis la Côte d'Ivoire devra également négocier sa qualification lors de la dernière journée face à la Sierra Leone, vainqueur du Soudan 1-0. Les champions d'Afrique en titre ont un point d'avance sur les Lone Stars.
Parlons maintenant de la suite des matchs de la Copa América.
Le groupe C qui a livré ses premières rencontres et service minimum pour le Venezuela devant la Jamaïque. Le Mexique, dans un match explosif et tendu, est arrivé à bout de l'Uruguay sans Luis Suarez 3-1. Le groupe D entre en compétition demain avec deux belles affiches. Panama-Bolivie en première heure et puis le choc Argentine-Chili. L'affiche de la dernière finale de cette compétition, la 100e édition de cette Copa América démarrée vendredi dernier, a vu le pays hôte tomber d'entrée devant la Colombie 2-0 et puis le Brésil a été accroché par l'Équateur 0-0.
Tennis avec les internationaux de France remporté par Novak Djokovic.
Oui, et ce sera le premier trophée dans cette compétition pour le Serbe, vainqueur du Britannique Andy Murray en 4-7, 3-6, 6-1, 6-2 et 6-4. Trois fois finaliste, Djokovic s'offre ainsi son premier Roland Garros. Et puis, basketball avec vous, Idrissa, le résultat du match numéro 2 de la finale de la NBA entre Golden State et Cleveland.
Le champion NBA en titre, Golden State, a dominé pour la deuxième fois en 3 jours Cleveland, submergé 110-77 dans le match numéro 2 de la finale 2016. Les Warriors, vainqueurs du match numéro 1, 104-89 jeudi, mènent 2-0 dans cette finale qui se dispute au meilleur des 7 matchs et ont pris nettement l'ascendant dans cette réédition de la finale 2015.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoulia. Nos dossiers du jour à présent. Jean Ping, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine et candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle au Gabon, a refusé de répondre à une convocation de la police judiciaire, à la police judiciaire de Libreville, la semaine dernière. Une justice qu'il dit être aux ordres du régime. Dans une interview exclusive accordée à John Linden de VOA Afrique, le rival du président Ali Bongo, M. Jean Ping, n'a pas mâché ses mots.
Ah, écoutez, il y a de quoi devenir fou. Voilà un président qui est candidat comme moi. Il est maintenant candidat. Nous sommes à égalité. Et qui instrumentalise la justice pour me convoquer. Comme si moi, je pouvais aussi le convoquer pour venir s'expliquer devant la police judiciaire. Vous voyez que c'est tout à fait tropicalisé, ce genre de système. On peut voir ça que dans les dictatures les mieux organisées.
Au vu de cette ambiance qui règne à Libreville, irez-vous jusqu'au bout avec vos ambitions politiques et notamment maintenir votre candidature à la présidentielle?
Évidemment, cher monsieur, évidemment. Vous comprenez que on ne peut pas se lever à mon âge, risquer la mort, parce qu'on me menace de mort tous les jours, risquer l'emprisonnement, et vous venez de voir un exemple, risquer la ruine parce que tous mes comptes sont bloqués, tout simplement la galerie. On ne peut faire ça que si on est déterminé. Donc, je sais ce que je risque, la mort, l'emprisonnement, le poison, tout ce qu'il a l'habitude de faire, qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, il n'y a aucun problème pour moi. Mes partisans ont l'habitude de dire de moi qu'il vaut mieux mourir comme un lion que de vivre comme un mouton.
Si votre vie est tant menacée que ça, pourquoi vous êtes toujours au Gabon?
Mais où voulez-vous que j'aille, cher monsieur? Si ma vie est menacée, que je fuis, le problème est réglé. C'est ce qu'ils espèrent. Que je fuis, que j'aille à l'étranger, que je fasse tout ce que je veux, mais que je ne sois pas là pour mener campagne. Et vous comprenez que ce n'est pas acceptable. Et donc je suis là en dépit des menaces, en dépit de tout ce que vous savez.
Est-ce que vous comptez présenter différent que l'actuel président Ali Bongo n'ait déjà fait?
Ah mais tout, complètement tout. Je prends le contre-pied de ce qu'il fait. D'abord, je veux instaurer la démocratie. Lui, c'est la dictature. Je veux instaurer la démocratie. Je m'y engage dans mon projet de société. Et je vais le faire. Ensuite, je pense que pour le Gabon, un pays très 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 riche, avec une population peu nombreuse, pourtant très pauvre, il faut s'occuper de l'homme, il faut s'occuper du Gabonais. Lui, il s'occupe des éléphants, il s'occupe de tout, mais pas du Gabonais. Voilà un terme très 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 simple et peu détaillé, ce que je vais faire. Le Gabon marchera sur ses deux pieds et non pas sur la tête. Mais j'ai un programme écrit que vous pouvez vous procurer, je pense que vous l'avez déjà, il faut l'examiner et puis vous verrez la différence.
Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine, au micro de John Linden.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
En Guinée, les femmes ne décident pas de leur santé reproductive. Les sujets qui portent sur le sexe sont tabous dans de nombreux ménages. Pour des raisons de pesanteur sociale, nous dit de Conakry notre correspondant Zakaria Camara.
Les hommes, pour la plupart, n'acceptent pas l'espacement des naissances par la prise des produits contraceptifs. C'est le cas d'Abdoulaye, commerçant.
Moi, j'apprécie pas beaucoup parce que quand le désir est là, j'ai envie de le faire et je dois le faire. Raison pour laquelle je me suis marié, je sors pas chercher les femmes ailleurs. Autant que Dieu nous donne, autant nous recevrons à bras ouverts ces enfants. Donc, du coup, la limitation de ces enfants, moi, je l'aime pas. C'est aller à l'encontre de la religion.
La religion, l'un des facteurs défavorables favorable à la planification familiale.
La plupart de nos femmes sont analphabètes, donc elles ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs, surtout leurs droits.
Boubacar Sidi Diallo, médecin chef adjoint de la maternité du centre médical communal de Ratoma, entend au quotidien les plaintes des femmes.
Il y a beaucoup de femmes qui ont peur de leur mari. Quand ils leur parlent de la planification familiale, elles vont dire « Attendez, docteur, je vais aller d'abord demander à mon mari. » Est-ce qu'il est d'accord? Ça veut dire que les femmes ont peur de leur mari pour la planification familiale. Et les maris pensent que quand la femme se planifie, c'est pour arrêter de faire les enfants. On fait penser aux femmes que quand tu te planifies, tu ne vas plus faire les enfants. Donc c'est ce qui les inquiète souvent, elles refusent de se planifier.
En Guinée, le taux d'analphabétisme et de polygamie reste élevé. Environ 90% des femmes en union n'utilisent aucune méthode contraceptive. Et parmi ces femmes, 58% n'ont pas l'intention de les utiliser dans le futur, selon une enquête démographique de la santé. Celles qui voudraient faire la planification le font loin des regards indiscrets.
Donc souvent, je me casse de mon mari pour faire mes planifications avec l'avis de mon médecin. Parce que mon mari, bon, il n'y a pas une communication sexuelle entre nous. Il ne me demande pas quand est-ce que je veux avoir des enfants, quand est-ce que je veux faire l'amour. Vous voyez, c'est vraiment compliqué dans le foyer.
C'est beaucoup plus compliqué pour cette autre dame, la quarantaine.
Il me dit à chaque fois, si tu te planifies, que Dieu te fasse ça, que Dieu te fasse ça. Donc, il me mène à chaque fois. Il y a une certaine idéologie dans la tête de nous, femmes africaines, surtout musulmanes, que si ton mari te demande le lit, si tu refuses, que Dieu va te maudire. Donc, avec cette idée-là dans la tête, on est obligé, même si on ne veut pas avoir en ce moment d'enfant.
Faire des enfants, parfois sans le vouloir, c'est la triste situation que vivent plusieurs femmes en Guinée. Mais si elles sont nombreuses à ne pas décider de leur vie sexuelle, il y en a par contre qui obligent l'homme à faire plusieurs enfants, surtout quand elles sont deux, voire trois à la maison. Plus d'enfants, plus de parts d'héritage, se défendent-elles. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
Au Tchad, plus de 77 000 candidats, toutes séries confondues, se présentent ce lundi au baccalauréat de l'enseignement général et technique. André Kodmajingar.
88 candidats réfugiés soudanais installés dans le camp de Ouré-Kassouni, sous-préfecture de Cariari, région de l'Enedi-Est, se lancent dans cette compétition avec le cursus tchadien pour la deuxième année consécutive. Et c'est grâce au SCR et ses partenaires qui non seulement ont pour seul mandat la protection de ces personnes vulnérables, mais aussi se préoccupent de l'éducation de celles-ci. Pour Solo Kadjangaba, manager éducation de l'IRC International Rescue Committee, malgré que le cycle moyen et secondaire soit logé dans le même bâtiment de 4 salles, par manque d'infrastructures d'accueil, les encadreurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes.
Il y a en tout ici 509 élèves pour 4 classes, donc vous voyez, c'est un pléthore. Mais on essaie vraiment de faire le maximum pour vraiment donner aussi les meilleures conditions d'études aux élèves. En classe de terminale actuellement, nous avons 80 en série A et 8 en série D. Sur les 88, nous avons 71 filles et 17 garçons.
Pour le chef du bureau du SCR, Damjaras Bemba Diallo, le camp de Ouré-Kassouni est le premier camp où le pourcentage des filles est très élevé à l'école. Voici la justification du coordonnateur terrain de l'IRC, Didier Kouziwaraï Fidèle.
Nous avons organisé vraiment des grandes sensibilisations pour que les femmes et les filles soient aussi impliquées pour la formation. Et ça contribue beaucoup plus à l'implication des filles plus que les garçons.
Lorsqu'on a fait les bacs l'année passée, on a retrouvé que ce sont des filles qui ont eu beaucoup de pourcentage que les garçons. Et cela, ça contribue aussi à ce que les autres filles aient aussi le courage de venir étudier.
L'inspecteur départemental de l'éducation nationale, Damjaras Togum Kadi, explique comment il a pu concilier les deux systèmes.
Auparavant, il pensait que le système tchadien peut s'imputer sur le système soudanais. Je les avais expliqué que c'est le même système. La première année, nous avons évalué, eux-mêmes ils ont apprécié ce système. Et effectivement, ils veulent à ce que nous les outillons encore par des formations typiques. Je demande à ma hiérarchie, aussi bien que nos partenaires, d'intervenir de sorte que certaines salles de classe soient construites et aussi limiter la pléthore au niveau du camp.
Les élèves, quant à eux, se souhaitent bonne chance et expriment déjà ce qu'ils entendent faire comme études supérieures après l'obtention du baccalauréat.
Ils souhaitent à ce que tous ceux qui sont candidats cette année soient tous admis.
القسم الإني صف صار سنة.
أندري
كودوما جينغار de retour d'Amjaras pour VOA Afrique.
Au Nigeria, la compagnie aérienne United Airlines cesse ses vols vers Lagos à partir de ce mois de juin. L'espagnol Iberia a arrêté ses liaisons depuis Madrid. Quelques-uns des mots dans ce pays, eh bien, pénurie de devises et chute des prix du pétrole, John Linden.
La compagnie United assurait des vols quotidiens entre Lagos et Houston au Texas. Cette liaison est terminée. Les achats de billets pour connecter deux géants du pétrole ont baissé de manière drastique. United a d'énormes difficultés pour convertir en dollars l'argent de billets acheté à Naira, la monnaie nationale nigériane actuellement en chute libre. United n'est pas la seule compagnie à vivre ce problème. D'après l'Association internationale du transport aérien, près de 600 millions de dollars de revenus des compagnies sont comme bloqués au Nigeria. Kreisa Ligbe, directeur exécutif d'une firme spécialisée dans l'aviation.
Les compagnies aériennes veulent faire de l'argent pour survivre. Et lorsqu'elles font de l'argent qui n'a pas de valeur, elles jettent l'éponge.
Pour contourner la difficulté, Delta Airlines n'accepte plus les paiements en Naira pour certains types de billets. Cependant, beaucoup de compagnies qui ont des traditions de longues relations s'accommodent. Ethiopian Airlines assure des vols vers le Nigeria depuis 1960. British Airways depuis l'époque coloniale. Turkish Airlines en fait autant avec des centaines de millions de dollars d'échanges commerciaux qui sont en jeu chaque année. Chris Aligbe est confiant. Je sais que British Airlines ne va jamais se retirer. Je sais que Ethiopian ne va jamais cesser. Je suis sûr que Turkish Airlines ne va jamais jeter l'éponge. La chute du prix du pétrole, première source de revenus du Nigeria, a créé un manque sévère des devises étrangères comme le dollar. Le contrôle et la limitation des transferts de capitaux imposés par le gouvernement fédéral a rendu plus difficile la possibilité pour les compagnies étrangères de récupérer leurs profits. Mais souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres. La compagnie nigériane Arik Air attire plus de clients. Cette compagnie accepte les paiements en Naira sans se soucier de transferts bancaires vers l'étranger. Mais elle doit aussi payer en devises les services dans les pays étrangers. Seulement, avec plus de clients sur les listes d'attente, Arik Air a été obligé récemment de clouer plusieurs avions au sol par manque de kérosène.
Au Bénin, des jeunes se mettent ensemble pour dire non à ce qu'ils appellent l'arnaque des réseaux de téléphonie mobile. C'est par un mouvement de boycott de deux jours des réseaux MOUF Bénin et MTN Bénin. Alors, de Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Ce boycott, le premier du genre au Bénin, est organisé par la plateforme Serwal, une association de jeunes mise sur pied à la faveur des élections présidentielles de mars 2016. Elle sera suivie dans son élan par plus d'une dizaine d'associations de jeunes de blogueurs, toutes armées de la volonté de dire non à cette forme d'arnaque qui semble fonder l'existence des réseaux de téléphonie mobile au Bénin. Sem Michel Amandidje est le président de la plateforme Serwal. Pour lui, ce boycott vise à exiger des responsabilités. La baisse des coûts de la communication au Bénin et l'amélioration de la qualité des différentes prestations.
Les deux objectifs principaux, c'était qu'on avait besoin d'avoir la réduction des coûts de communication parce que ça devenait trop cher. À force de dépenser de l'argent, acheter des mots qui disparaissent, ça pesait sur le consommateur final. Il n'est pas rare d'appeler quelqu'un qui est à côté de vous et qu'il soit hors zone. On s'est dit, pour les consommateurs, on a besoin de communiquer de manière sereine et pérenne dans notre pays.
Le boycott a été suivi par bien de Béninois. Pour ceux-ci, l'État et les responsables des réseaux de téléphonie mobile ont eu le temps de se faire du beurre sur le dos des populations.
Là où nous sommes, là, il n'y a pas d'argent. Et avant d'acheter le crédit, là, c'est difficile.
Il faut que l'État cesse de nous sucer au niveau des GSM. L'État est comme une maladie qui nous conduit vers la mort.
Donc, ils n'ont qu'à s'arranger avec les gens du GSM pour que nos appels ne n'augmentent pas. Pour qu'il y ait un consensus entre les GSM et le gouvernement.
Pour Nestor Derwinji, économiste et membre de la plateforme, le boycott 229 est une une action salutaire qui pourrait redonner vie au panier de la ménagère qui s'affaiblit pour avoir trop contribué à payer des frais de communication trop élevés.
Ce que nous voulons faire, c'est d'améliorer le visage économique du pays. Lorsque vous, consommateurs, on vous facture pour 40 francs CFA alors que vous avez communiqué peut-être 30 secondes, vous n'êtes pas content. Si vous devez dépenser 3 gigas d'Internet par semaine qui reviennent pratiquement à plus de 10 000 francs CFA, quelle marge vous allez vous faire comme argent pour aller au marché? Quel argent utiliserez-vous pour nourrir votre petite famille? Je pense que le boycott est une bonne chose parce qu'il va permettre aux populations de mieux vivre.
Les jours à venir seront déterminants pour ces associations de jeunes qui ne comptent reculer qu'à la satisfaction complète de leur demande, à savoir la baisse du coût de la communication et une meilleure qualité des prestations fournies à prix d'or. De Cotonou, Ginette Fleur-Adonné pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson et à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.